Albert Jacquard est venu à Arras après une séance de dédicace. Il a animé une conférence débat autour d'un thème qui lui tient particulièrement à cœur, l'éducation. Mais Albert Jacquard, qui est Albert Jacquard ?
Je suis un généticien qui, au cours de sa carrière, peu à peu a évolué en s'intéressant de plus en plus à la génétique, non pas dont on parle tous les jours, la génétique des laboratoires, mais la génétique des populations, c'est-à-dire la génétique mathématique, où on essaie à grands coups d'équations de retracer l'histoire du monde vivant sur la Terre. Et puis, je me suis spécialisé dans la génétique des populations humaines, car je me suis aperçu que finalement, l'objet le plus passionnant dans l'ensemble du cosmos, c'était quand même nous, les êtres humains. Et du coup, ça m'a amené à faire des réflexions concernant la place des hommes sur la planète et comment s'organiser. Si bien que, tout naturellement, je suis passé d'un métier qui était très abstrait, faire des mathématiques à propos de génétique, à un métier qui est beaucoup plus inséré dans la réalité sociale, qui est finalement la politique, c'est-à-dire essayer de répondre à la question comment est-ce qu'on devrait s'organiser pour vivre à 6 milliards, bientôt 7, bientôt 8, sur cette petite planète. Et c'est en posant cette question-là, que j'ai été amené à écrire mon dernier bouquin, mon avant-dernier bouquin plutôt, qui s'appelle « Mon utopie », où je ne cache pas que ce que je décris n'est pas la réalité, mais ce qui pourrait être la réalité, c'est-à-dire ce qu'on appelle une utopie, non pas un rêve inatteignable, mais une structure humaine parfaitement réaliste, mais qui pour l'instant n'a encore pas été essayée. Alors me voilà comme quelqu'un qui, avant de s'en aller, dit à l'humanité, quand même vous faites trop de sottises, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer ceci ou cela ? Et il s'agit donc finalement de réorganiser l'humanité sur la planète. Comment le faire ? En persuadant ceux qui vont construire le monde de demain, c'est-à-dire les enfants. Et pour persuader les enfants, il faut commencer par persuader les profs. Et par conséquent, mon bouquin finalement, il s'adresse aux professeurs, en leur disant, essayez donc d'accroître la lucidité de vos élèves. Pourquoi va-t-on à l'école ? Pour être lucide, et pas seulement pour préparer la vie active.
On n'y va pas pour devenir intelligent ? Comment est-ce qu'on devient intelligent ?
Comment est-ce qu'on devient intelligent ? Il n'y a vraiment pas de réussite. Cette question, je vais la replacer dans la bouche de quelqu'un qui était une petite fille, elle devait avoir 14-15 ans, et c'était une classe pour enfants qui ont des difficultés, des classes de rattrapage, au fond. Et après ma rencontre avec ce petit groupe d'une trentaine de garçons et filles, cette jeune fille me dit « Monsieur, je voudrais être intelligente comme vous, comment est-ce que je dois faire ?» C'était gentil. Et alors, ce qui me reste de souvenir, c'est le cri de ses petits copains qui lui ont dit « Comment ? Jamais tu ne seras intelligente comme un professeur de Paris. » On était en banlieue. Vous voyez, le professeur, c'est déjà pas mal. De Paris, c'est encore mieux. Bon, et il y avait toutes les idées préconçues qui débarquaient. Jamais tu seras intelligente comme moi, parce qu'il n'y en a pas deux intelligences pareilles, mais il faut que tu deviennes intelligente comme toi, et que tu aies une intelligence différente de la mienne. Si tu avais la même que moi, ben quand on se rencontrerait, on n'aurait pas grand-chose à se dire. Tandis que tu vas être intelligente différemment de moi, on va pouvoir avoir une conversation. Mais ce qui était terrible, c'était au fond, le refus de croire qu'il serait un jour intelligent de tous ces garçons et ces filles. Alors, ce que je dis à ces petites filles, devenir intelligent, c'est avant tout faire tourner son cerveau. Le faire tourner, au fond, un peu n'importe quel que soit le sujet. L'important, c'est de ne pas le laisser s'endormir. Et c'est là que j'ai trouvé une très jolie formule. Le cerveau, c'est le contraire d'un muscle. Ça se fatigue que quand on ne s'en sert pas. C'est un peu comme la pile fondaire, vous savez, qui ne s'use que quand on s'en sert. Eh bien, le cerveau, c'est le contraire. Il ne s'use que quand on ne s'en sert pas. Mais quand on ne s'en sert pas, il s'effondre peu à peu. Et finalement, il ne reste plus rien. Et ceci n'est pas seulement une façon poétique de dire les choses, c'est très réaliste. Car ce cerveau, à 15 ans, il comporte, figurez-vous, d'après les calculs actuels, de l'ordre d'un million de milliards de connexions. C'est fabuleux. Ces connexions, elles n'existaient pas quand le bébé est né. Donc en l'espace de 15 ans, ce qui représente 500 millions de secondes, un enfant met en place un million de milliards de connexions. Faites la division, ça fait un rythme de 2 millions par seconde. Donc quand vous êtes devant un enfant qui suce son pouce, ou qui a l'air de dormir, ou qui, etc., il est en train à chaque seconde, toc, toc, de mettre 2 millions de connexions dans son cerveau. C'est formidable, c'est fabuleux. C'est avec ça que je suis intelligent. Alors évidemment, je suis intelligent. Mon intelligence est quelque chose de formidable, mais c'est vrai de tout le monde. Alors naturellement, il y en a qui aiment mieux les mathématiques, il y en a qui aiment mieux le rugby, il y en a qui, etc. Mais l'important, c'est de faire tourner son cerveau en se posant des questions. Et de temps en temps, en comprenant des réponses. Mais l'important, c'est de formuler des questions.
Vous avez parlé tout à l'heure de cette petite fille, vous lui avez demandé donc si vous vous rencontriez, si vous aviez la même intelligence, vous n'auriez plus rien à vous dire. Vous dites effectivement que l'école devrait apprendre l'art de la rencontre. Est-ce que vous pouvez développer ?
Ah, vous l'avez lu mon livre alors ? Parce que c'est l'essentiel de ce bouquin. Pour moi, je me pose la question, pourquoi va-t-on en classe ? Alors certains répondent, on va en classe parce que c'est obligatoire. Oui, finalement, on va en classe pour préparer la vie active, oui, mais c'est très insuffisant. Finalement, on va en classe pour construire sa propre personne. Bien sûr, l'intelligence, mais ce n'est qu'un aspect. Il n'y a pas que l'intelligence, il y a surtout l'émotion, il y a la capacité à vraiment percevoir quelque chose, notamment chez l'autre. Être capable de se regarder dans les yeux. Et ça, ça s'apprend. L'important pour chacun d'entre nous, c'est de comprendre, ça sera le thème de ma conférence ce soir, que chacun d'entre nous, dans l'espèce humaine, est double. Pour fabriquer Albert Jacquard, il y a eu deux sources. Il y a eu un jour la rencontre d'un ovule, d'un spermatozoïde. Ça a fabriqué un corps, un objet qui est là. Il a telle forme, telle couleur. C'est ce qu'on voudra. Peu importe, c'est la nature qui me l'a donné. Mais pour un animal, ça s'arrête là. Pour moi, ça va plus loin, puisque j'ai été capable de transformer ce que m'avait donné la nature en un être capable de se savoir être. C'est quelque chose d'extraordinaire quand on y réfléchit. Je sais que je suis, je dis je, c'est extraordinaire. Et par conséquent, il a fallu que quelque chose de plus m'arrive que ce que la nature m'avait donné. Ce quelque chose, c'est la rencontre des autres. Et finalement, quand on arrive à mon âge, on a l'évidence que ce que l'on est devenu n'était pas préétabli dans le petit bébé qui est né il y a 81 ans. Bon, c'était un objet qui se fabriquait. Ce qui s'est produit, c'est la construction d'une personne avec des connexions, avec des émotions, avec des réactions, qui est unique au monde, évidemment, qui est merveilleuse comme toutes les personnes humaines, et puis qui est en cours de fabrication tout au long de sa vie. Et quels sont les matériaux de cette fabrication ? Les matériaux, c'est les autres. Si je n'avais pas été en contact avec d'autres êtres humains, je n'aurais jamais dit « je ». Les enfants loups, les enfants qui, bon, je ne crois pas qu'il y en ait eu vraiment, mais enfin, dont on raconte l'histoire, qui ont été élevés par des animaux, n'étaient pas capables de dire « je », parce qu'ils n'avaient pas entendu de « tu ». Si bien que l'important dans une société, c'est d'habituer les enfants à rencontrer les autres. Apprends à rencontrer les autres. Oui, mais l'autre, il n'est pas drôle. L'autre, il est dangereux. L'autre, c'est vrai. Eh bien, justement, il est dangereux. Je vais t'apprendre à quand même trouver de la matière chez lui. C'est lui qui va t'aider à te faire. Et du coup, mon projet, quand je serai ministre de l'Éducation nationale, est très clair. J'écris sur tous les lycées, toutes les écoles maternelles. Ici, on apprend, on enseigne l'art de la rencontre. Et à partir du moment où un enfant s'est rencontré, tout est gagné. Tout le reste lui arrivera. Un beau jour, il aura envie de lire Victor Hugo. Un jour, il aura envie de résoudre une équation. Un jour, il aura envie, etc. Peu à peu, il formera son intelligence, sa capacité à être ému. Il deviendra quelqu'un.
Mais comment faire pour apprendre à ces personnes, aux enfants, à gérer cette peur de l'autre ?
Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette, mais il faut vivre ensemble. Pour moi, une salle de classe, c'est un lieu où on vit ensemble, où on va s'écouter les uns les autres. Quand je pense à une classe, je me dis qu'on agit très mal, par exemple, en les empêchant de copier les uns sur les autres. Ça, je ne vais pas te copier, mais si vous ne savez pas répondre et que moi je sais, ben vous me dites « comment est-ce que tu apprends ça ?» Ben, si je sais, je vous le dis. Et en essayant de vous expliquer, je m'aperçois que je n'avais pas bien compris, et on recommence. Et par conséquent, une salle de classe, ça doit être un lieu de rencontre en permanence, des élèves les uns avec les autres, et puis avec le prof, bien sûr, qui n'est pas inutile. Mais le rôle du prof, c'est de provoquer justement ces échanges. Et quand on tire sur ce fil, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de changements à faire. En particulier, Il faut éliminer toute idée de compétition entre les enfants, toute idée de palmarès. Lequel de nous deux est supérieur à l'autre? C'est pas sérieux de poser des questions pareilles. Par conséquent, il ne faut pas y répondre. Donc on va en classe et puis vous avez des notes, plutôt des commentaires, pas des notes chiffrées, mais des commentaires. Moi j'en ai d'autres. On a des intelligences différentes. On ne pose pas la question lequel des deux est premier. Et il faudrait dans tous les domaines supprimer les palmarès. Et même dans le sport. Alors voilà mon projet, là c'est comme ministre des Sports. Je supprime les scores. Voilà la belle formule. Vive le sport sans les scores. Et on fait une partie d'échecs, une partie de rugby, c'est du sport. Mais c'est magnifique parce qu'il y en a un qui est parti avec le ballon, un autre, etc. Mais qu'est-ce que ça peut faire de ramener, qu'est-ce que ça veut dire de ramener cette partie à deux nombres? Ah, les Français ont gagné par 40 à 25. Mais je m'en fous. L'important c'est, est-ce que la partie était belle? Est-ce que les gens de mon pays se sont montrés beaux joueurs, rapides, intelligents, etc. C'est ça qui m'intéresse. Mais le résultat global n'a aucun sens. Alors j'essaie d'imaginer, vous voyez, dans le prochain ministère, au moins l'éducation et les sports seront bien transformés.
Oui, mais les enfants reproduisent un peu les modèles que leur proposent leurs parents. Si le modèle des parents n'évolue pas, comment celui des enfants peut-il évoluer? Ça ne va pas de soi?
Eh bien, j'essaie de commencer par l'école. Je dis aux enfants, n'écoutez pas trop vos parents. En tout cas, quand ils vous demandent d'être les premiers, répondez-leur. L'instituteur nous a conseillé de ne jamais être premier. C'est dégueulasse d'être premier. Ça veut dire que je domine les autres. Non, je fais mon maximum. De temps en temps, c'est moi qui arrive le premier. Mais bon, ben, j'en suis content. Mais il n'y a pas de quoi en faire une histoire. Et puis demain, ça sera un autre que moi. Et par conséquent, ce n'est pas un palmarès entre les individus. C'est un lieu où chacun donne son maximum. Et de temps en temps, est applaudi. Rien n'est plus satisfaisant que d'apporter quelque chose, apporter de l'intelligence aux autres. C'est merveilleux. Chacun son tour.
Mais alors, est-ce que l'éducation, c'est une question de famille ou c'est une question d'État ?
Il faut que les familles jouent un rôle, mais c'est une question de collectivité, de communauté. Quand je vous parle des rencontres, je me dis que l'essentiel, c'est la mise en commun. Ce qui m'enrichit, c'est qu'avec d'autres, j'ai mis en commun tout ce qu'ils m'ont donné. Merci à eux. Moi, je leur ai donné un petit peu aussi, pourquoi pas. Je suis tout content de ce que je donne, mais je suis tout content de ce que je reçois. Par conséquent, je n'ai pas à savoir si je suis le premier, j'ai à savoir si j'ai bien joué mon rôle. Et j'ai des satisfactions formidables chaque fois que je joue bien. S'apercevoir avec un autre qu'à nous deux, on n'a pas compris. Et qu'en se mettant l'un à côté de l'autre, on finit par comprendre à plusieurs. L'essentiel, c'est pas... Ça, c'est une très jolie phrase aussi. Elle n'est pas de moi, elle est d'une petite fille. L'essentiel, ce n'est pas l'exploit solitaire. C'est la réussite solidaire. Une lettre change et ça suffit. C'est en étant solidaire qu'on va comprendre. Ce que j'ai compris en mathématiques, j'aime bien les maths. Ce que j'ai compris, c'est ce qu'on m'a expliqué. De temps en temps, c'est ce que j'ai trouvé tout seul, mais très rarement. Et par conséquent, l'important, c'est justement de trouver quelqu'un qui m'explique, que ce soit le prof ou un petit camarade. Et puis, quelquefois, à nous deux, on va découvrir des choses. Ça sera intéressant, être solidaire. Mais c'était vrai déjà il y a 20 000 ans, quand on allait chasser le mammouth. Il ne fallait pas avoir des gros muscles. Il fallait être capable de s'y mettre à 20 ou 30, pour 20 ou 30 pauvres petits hommes qui étaient faiblards, être capable de tuer un mammouth, il faut le faire. Mais on ne peut pas le faire tout seul, il faut le faire à 50. Donc il faut être solidaire. C'est la leçon permanente. Ce que je suis, c'est fonction des liens que je tisse avec les autres.
Est-ce qu'on peut dire que les rencontres, cet art de tisser du lien, c'est un petit peu le nectar de la vie et que sans ça, on s'assèche et on n'arrive pas à s'épanouir comme une plante sans eau?
Vous venez de le dire. Moi, je n'ai plus qu'à répéter ce que vous venez de dire. Oui, les rencontres, c'est le nectar de la vie. Je n'ai jamais écrit ça, mais je l'écrirai dans mon prochain bouquin. C'est une jolie phrase. Les rencontres, c'est le nectar de la vie. Et sans ce nectar, je n'ai pas de gelée royale. Tandis que quand vous êtes en face de moi, que vous me regardez avec gentillesse, que vous m'écoutez, que vous donnez l'impression de comprendre ce que je dis, eh bien, au fond, c'est vous qui m'apportez de la gelée royale.
Est-ce que vous pensez, à l'heure où on entend beaucoup parler de terrorisme ou d'intégrisme, qu'il serait opportun de sensibiliser les jeunes, les enfants, à l'histoire des religions et de la spiritualité dans l'évolution de l'humanité ?
Ça, certainement. Les religions sont un fait historique. Il faut que chacun connaisse. Il faut expliquer à tout le monde ce que c'est que le christianisme, en quoi ça consiste, ce que c'est que l'islam, le bouddhisme, etc. Et après ça, on peut présenter ces choses sans être prosélyte. Il ne faut pas dire la religion un tel est mieux que les autres, elle est différente. Et s'apercevoir, et ça c'est très profondément vrai, s'apercevoir qu'elles disent finalement toutes la même chose. Que vous disiez Dieu ou Allah, que vous disiez Jésus ou Mahomet, bon, il y a des différences dans la façon dont on y croit, dont on les reçoit, mais l'important, c'est de se dire, moi je suis chrétien de formation, naturellement j'ai remis ça en cause beaucoup, mais je suis en train d'écrire un livre avec une jeune femme que vous connaissez de réputation, Fadela Amara, qui a lancé le mouvement Ni pute ni soumise. C'est une femme de 40 ans, extraordinairement intelligente et qui a une foi musulmane absolue, formidable. Elle me plaint de ne pas avoir la foi chrétienne correspondante. Bon, ben, on se rencontre actuellement toutes les semaines pour écrire un livre ensemble. Et ce livre, j'espère bien que quand les gens le liront, ils ne seront pas convaincus qu'il vaut mieux être chrétien que musulman ou l'inverse. Ils diront, voilà deux religions qui ont tel ou tel aspect particulièrement plaisant pour moi, tel. Et c'est tout. L'important, c'est d'être informé. D'être informé et de s'apercevoir que dans l'inspiration profonde, ils disent la même chose. Je prends un exemple. J'ai appris, justement, grâce à Fadela, que le mot djihad, j'avais rien compris. Pour moi, le djihad, dont on parle tant, c'est la lutte contre les autres, la bataille la plus vigoureuse possible contre tous ceux qui ne sont pas musulmans. Ça me paraît être, finalement, très agressif, très violent. Et Fadela me dit, mais pas du tout. Il y a deux sens au mot djihad. Il y a le sens que vous dites, c'est la petite djihad, se battre contre les autres. Mais il y a la grande djihad qui, elle, est le contraire. C'est se battre contre soi-même pour arriver à être fidèle à l'enseignement du prophète, d'après elle. Et que dit le prophète? Il dit que, justement, il faut tolérer, il faut accepter l'autre, il faut jamais en dire du mal, etc., etc. C'est splendide, c'est magnifique. Elle est bien d'accord avec moi que c'est pas ce que vivent tous les jours l'ensemble des musulmans. Bien sûr, exactement comme ce que suggère le Christ, c'est pas suivi tous les jours par les chrétiens, de la même façon. Donc c'est vraiment symétrique. Des deux côtés, il y a ce qui est au cœur de tout, l'affirmation profonde, et puis la façon dont c'est vécu, qui est le plus souvent une trahison. Dieu sait, moi, qu'en tant que chrétien, je trouve que l'Église trahit le plus souvent le message initial. Donc je le dis, je l'écris, j'en fais des bouquins. Mais l'important, c'est de dire aux enfants, sachez quelle est la réalité. Regardez-la en face. Et n'ayez pas d'idées préconçues en disant « tous les sondés ». C'est la fameuse phrase qui est ou raciste ou méprisante. Que l'on dise tous les juifs sont des affreux ou tous les juifs sont des merveilleux, c'est de toute façon du racisme. Ça ne signifie rien, tous les.
Donc ce serait opportun d'enseigner ce thème-là, le thème de la spiritualité, aux enfants?
Ah oui, mais les enfants d'ailleurs, d'eux-mêmes, posent des questions. Les enfants, très tôt, par exemple, ont compris qu'un jour il y avait la mort. Un jour il y a leur grand-papa, leur grand-mère qui meurt, leur grand-père, et ils posent la question, mais où est-il maintenant? Celui qui était vivant, qui a disparu. Qu'est-ce que c'est que la mort? Qu'est-ce qu'on devient? Tous les enfants posent la question. Ben, les parents répondent comme ils peuvent, mais ils sont en face des questions les plus profondes. L'autre jour, un enfant me posait la question que posait, je crois, Aristote. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien dans l'univers? Bon, mais c'est à la portée d'un enfant de 6 ans de dire des choses pareilles. Comme d'Aristote, on est tous au même niveau. À partir du moment où on se pose des questions de finalité, on ne sait pas répondre. Mais il faut le dire. Puis être ensemble, à se dire, tiens, j'aimerais bien répondre de telle ou telle façon.